Est-ce que vous avez déjà rêvé de gagner au loto? Peut-être de gagner des millions, voire des dizaines de millions. Mon invité du jour, lui, sa fortune, elle est estimée à plus de 300 millions d'euros. C'est sans doute l'une des personnes les plus riches que je connaisse. Et il s'agit d'Éric Larchevêque, que vous connaissez peut-être pour l'émission qui est diffusée sur M6, autour de l'entrepreneuriat. C'est aussi le cofondateur de Ledger. Et avec Éric, on va parler évidemment d'entrepreneuriat, on va parler de sa vie, on va parler surtout des sacrifices, de toutes les problématiques que ça peut créer de devenir un entrepreneur, de gagner autant d'argent. Parce qu'en fait, on n'y pense pas nécessairement tout de suite, mais en réalité, la vie d'entrepreneur, et vous allez voir sa définition de ce qu'est être riche, vous allez voir que vous êtes sans doute, pour certains d'entre vous en tout cas, riche dans sa définition où il le définit lui. C'est ça que je trouve intéressant dans cet épisode, c'est de comprendre. C'est quoi la vie de ces personnes? C'est quoi la vie d'Éric en l'occurrence? Et à quoi ça peut ressembler? Il a écrit un livre qui s'appelle Entreprendre pour être libre. Bah, ça dit déjà pas mal de choses. Et dans lequel il donne des conseils aussi pour être entrepreneur. Et vous allez voir, on le couvre aussi évidemment. Qu'est-ce que c'est que la vie d'entrepreneur? Quelles sont les problématiques d'un entrepreneur? Pourquoi on doit devenir entrepreneur? Comment on fait pour avoir de la chance? Est-ce qu'on la crée? Est-ce que c'est tout l'enjeu? Est-ce que c'est d'avoir une bonne idée? Bref, c'est toutes ces questions-là qui me semblent, moi, essentielles. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, Eric.
Salut.
Comment tu vas?
Super.
Comment tu te sens, surtout?
Bah, je suis très bien et très heureux d'être de retour dans ton
Ben
podcast.
ouais, on avait fait un épisode il y a très longtemps.
Oui.
Sur la blockchain et les impacts sociétaux de la blockchain.
Ouais,
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs.
Voilà.
On va y revenir, mais une des choses que je me dis, en tout cas sur moi, et quand je parle avec les personnes autour de moi, c'est souvent le cas. Ce qui nous forge aujourd'hui, quand on est adulte, c'est souvent son enfance. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre sur ton enfance pour savoir et pour comprendre le Éric Larchevêque d'aujourd'hui.
Bah, je pense qu'il faut comprendre que j'étais fils unique, que j'avais beaucoup d'espace, j'étais à la campagne, et que j'avais donc besoin de m'imaginer beaucoup de choses pour passer du temps. Et donc j'avais besoin de construire, j'avais besoin d'imaginer des aventures. Et lorsque j'ai croisé la route d'un ordinateur et que j'ai pu utiliser cet ordinateur pour donner vie à toutes mes idées, bah, c'est ça qui a un petit peu construit ma future carrière d'ingénieur en tout cas. Mais cet espace que j'ai cherché à combler, je pense, est un début de réponse.
Il y a cet espace, et il y a aussi, enfin, tu en parles beaucoup de cette quête de liberté et du lien avec ton père. Tu peux nous raconter un peu l'histoire de ton père parce que c'est hyper intéressant, c'est fondateur, j'ai l'impression, dans la manière dont toi t'as
Oui,
décidé d'entreprendre.
donc pour savoir que je viens d'une famille de porcelainiers, mon arrière-grand-père Marc Larchevêque avait créé l'usine de porcelaine Larchevêque à Vierzon, là où on habitait. Donc, et ça a été transmis de père en fils. Et donc, mon père avait plutôt fait des études de chimie et son rêve, c'était de partir explorer le monde pour être prospecteur pétrolier. Et un jour, malheureusement, son père, donc mon grand-père, décède. Et il est le seul dans la famille à vraiment pouvoir reprendre l'entreprise familiale, donc de porcelaine. Et malgré lui, il en hérite, il en devient le patron. Et il va passer donc sa vie à gérer l'entreprise, à le faire au mieux, à bien le faire, mais à toujours regretter en fait de ne pas s'être échappé. Et je l'ai toujours vu portant le poids de son entreprise, de ses responsabilités. Et le regard vraiment porté vers les loins espaces en voulant s'enfuir. Et il me disait, enfin, ce qu'il aimait même répéter, c'était pas de famille, pas d'amis, pas d'enfants, pas d'entreprise, pas d'emmerde. Enfin, prends ton sac à dos, barre-toi loin d'ici et vis seul, empli de liberté, quoi.
Et tu dirais quoi, toi, aujourd'hui, de ces des apprentissages de ton père? Enfin, de ces phrases, en tout cas.
Bah, en fait, que ça fait beaucoup de place, ça laisse beaucoup de place à une forme d'égoïsme. Parce que finalement, le fait de vouloir prendre sa liberté pour soi-même, en oubliant un petit peu les autres, et le faire, et pas juste le rêver, parce que lui, il le rêvait, mais il le faisait pas, donc il n'était pas dans cet égoïsme, au contraire, il était là. Un entrepreneur, c'est quelqu'un, je pense, de fondamentalement égoïste, parce qu'il fait passer sa passion, son entreprise devant tout, même devant sa famille. Et quand on dit que j'entreprends pour être libre, il y a une énorme, il y a beaucoup d'égoïsme là-dedans. Parce que quand tu es libre, bah forcément, tu dois te détacher des autres. Et c'est pas facile. Dès que tu te rattaches aux autres, tu perds de la liberté. Et c'est un constat assez froid et clinique, mais qu'on peut pas non plus balayer d'un revers de main. Et on doit l'accepter. On doit accepter, en fait, sa part d'égoïsme dans cette équation.
Comment tu... Parce qu'en fait, tu en parles. Donc, juste pour la petite histoire, nous, on s'est rencontrés, c'était en 2013, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait 10 ans.
Oui.
Aujourd'hui. Et en fait, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec ta femme il y a...
Iveta, oui.
Iveta, il y a 20 ans.
Ouais.
Et donc, c'est elle qui nous a présenté il y a très longtemps. Et donc, j'aimerais bien comprendre. On lui passe le bonjour, déjà. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Comment tu as su gérer, ou comment tu as pu gérer, ou comment vous avez géré cet égoïsme que tu avais par définition, parce que toi, tu es un entrepreneur dans l'âme, tu as fait des tonnes de choses. Comment tu as pu gérer ça en ayant des enfants, une femme, parce que par définition, il y a forcément quelqu'un qui s'occupe de l'éducation des enfants. Enfin, je veux dire.
Oui, c'est forcément quelque chose que tu dois gérer d'une manière générale. Et déjà, la première chance que j'ai eue, la première réponse, c'est Iveta. C'est que j'ai une femme extrêmement compréhensive. Et du reste, je l'avais prévenue. C'est-à-dire que quand on a décidé de passer aux choses sérieuses, je lui expliquais que j'étais entrepreneur, que les projets allaient toujours passer avant, et que c'était ma mission, mon objectif. Et donc, elle m'a épousé en connaissance de cause. Et donc, même si j'ai toujours été un peu présent, c'est vrai que j'étais pas là à l'emmener au restaurant, à faire des trucs, etc. Et quand on a eu des enfants, je pense que j'ai essayé de faire au mieux, mais j'ai quand même pas mal laissé Iveta gérer. Clairement, si on me pose la question entre l'équilibre pro-perso, pour moi, il n'y a qu'une réponse, il n'y a pas d'équilibre. Tu choisis, et moi, j'ai choisi le pro. Et bien sûr, tu payes, il y a une addition à la fin, tout ça, ça a des conséquences. Mais la première étape, c'est déjà de l'assumer et de pas de se mentir à soi-même et au moins de voir les choses. Et moi, je l'ai toujours vu comme ça. Et à partir du moment où tu dis les choses, que tu le sais, que tu vis pas une fausse vie en faisant croire quelque chose, mais que déjà, ça se passe quand même mieux. Et si l'autre accepte, bon, tu peux réussir à construire une entreprise à 1 milliard sans pour autant te retrouver en instance de divorce, quoi.
Ouais, parce que c'est ça aussi, c'est que parfois, moi, je l'ai vu chez certains entrepreneurs, une sorte de... Je sais pas si le mot c'est dédain, mais tu vois, de non-reconnaissance de l'effort que la compagne, ça peut être un homme ou une femme d'ailleurs, a dû consentir pour que l'autre personne puisse s'épanouir dans son entrepreneuriat.
C'est une base arrière forte, c'est le camp de base. Et moi, c'est parce que j'avais un camp de base extrêmement solide avec Iveta, très compréhensif, qui était tout le temps derrière moi. Et quand j'arrivais à la maison, je me tapais pas en fait une tonne d'injures domestiques. Non, pas du tout. Bien sûr, elle a tenu le fort à la maison, elle a géré, et on a vraiment fait équipe de ce côté-là. Et c'est sûr que sans elle, ça aurait été très compliqué.
Tu parles beaucoup tu parles de ta mère aussi dans
le livre. Au début, oui.
Au début. Je me posais plusieurs questions. La première, c'est comment on gère d'avoir été éduqué par une mère qui était danseuse? Parce qu'il y a une forme de rigueur, il me semble, je ne sais pas.
Ah, c'était une artiste, donc elle avait une forme de rigueur extrême dans son école. C'est quelqu'un qui a fait l'Opéra de Paris, qui ensuite a travaillé dans des ballets et qui était plutôt, on va dire, c'est la vision Union soviétique, en fait, de la rigueur de l'éducation du gymnaste. Et donc, elle avait une école à Vigneux-sur-Barangeon, à côté de Vierzon, dans le Cher, dans le Berry. Et elle a réussi, dans un village de 2000 habitants, à envoyer 3 élèves au conservatoire et à l'Opéra de Paris. Donc, et ça se fait avec une rigueur. Et les parents étaient parfois un peu terrorisés, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils pensaient que c'était, on allait jouer au tutu, etc. Et ma mère, elle lâchait rien du tout. Et elle arrivait à tirer un talent incroyable de la part de ses élèves. Mais c'était effectivement au prix d'une rigueur exceptionnelle et d'un travail exceptionnel. Et ce que m'a appris, en fait, ma mère, ce qu'elle m'a montré, là où elle m'a inspiré, c'est qu'elle m'a montré qu'il y a des talents partout. Et que ce qui compte, c'est d'avoir les bons professeurs. D'où la notion importante de l'éducation, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et à partir du moment où tu arrives à amener le bon professeur, la bonne personne aux élèves, aux apprenants, aux jeunes, eh bien, la bonne rencontre peut complètement faire changer et bouleverser toute une vie et créer des ambitions, ouvrir une voie.
Et tu dirais que, on va revenir sur l'éducation, hein, mais tu dirais que cette rigueur, elle t'a accompagné dans ton amour de l'informatique ? Parce qu'en fait, il y a une forme de rigueur aussi.
Alors, tu dois être... Oui, il y a une forme dans l'informatique, un minimum d'analyse de rigueur. Tu peux pas... Moi, je suis pas un artiste. Je pense que j'ai une âme d'artiste parce que je suis extrêmement sensible je suis pas complètement, je suis pas un vrai geek. J'ai pas de rigueur d'analyse, etc. Même si j'ai fait maths, physique. Je pense qu'elle m'a plutôt transmis en fait ce côté artistique émotionnel que cette rigueur. Qui peut-être est venu plutôt de mon père, qui lui était plus un produit de l'ingénierie. J'ai plutôt pris un côté artiste de ma mère, même si je me revendique pas artiste. Hein,
On est tous un peu. Hein.
Mais voilà, ce côté sensible, en tout cas, ce côté très sensible, mais qui est très utile, parce qu'une sensibilité permet une écoute, une compréhension, et ça, c'est important.
De l'empathie, et surtout dans l'émission télé dans laquelle tu es actuellement.
C'est vrai que montrer une forme d'empathie et d'émotion tout en... Oui, c'est sûr que ça...
Ça joue dans les projets dans lesquels tu investis aujourd'hui ?
Alors, oui, parce que parfois, je fais les décisions d'investissement pour des mauvaises raisons, parce que j'ai envie de vivre des aventures, parce que je trouve ça génial, parce qu'il y a un peu d'émotion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'ai compris que j'aimais accompagner les entrepreneurs plus que d'investir. Donc maintenant, c'est ce que je fais beaucoup plus. Je suis beaucoup plus dans l'accompagnement que l'investissement.
Tu racontes aussi, et c'est très personnel ce livre, tu racontes aussi qu'elle était sans doute bipolaire.
Sûrement.
Quel impact ça a pu avoir sur toi quand tu étais jeune déjà, et puis ensuite plus tard?
Ça m'a appris à avoir... J'ai peu de peur, tu vois. Mais s'il y a une chose qui me fait extrêmement peur, c'est la folie. La folie, ça fait peur. Et quand je croise des gens fous, mais là je parle de la vraie folie, hein, folie psychiatrique, là je peux pas. C'est quelque chose que j'arrive pas à gérer. Et donc ma mère n'était pas folle alliée, elle a pas été internée, mais elle avait une forme de bipolarité et par moments, c'était plus ma mère, c'était autre chose. Et elle avait une forme de dépression sévère et puis elle rentrait dans des cycles de crise assez violents où... elle prenait un couteau, elle me disait qu'elle allait tuer mon père et qu'elle allait se tuer ensuite. Enfin, moi, j'avais 8 ans, j'avais un peu de mal à gérer, quoi. je parle de souvenirs, c'est très injuste, hein, que je parle que...
Elle est plein d'autres choses.
Parce qu'évidemment qu'elle est plein d'autres choses, mais c'est quand même, je pense que ça m'a marqué, ça a joué, je sais pas quel rôle exactement, mais ce qui est certain, c'est que, la folie, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à gérer.
Ça a dû jouer dans la manière dont déjà choisi Iveta, j'imagine.
C'est sûr, je choisis des gens et je m'entoure que de gens extrêmement stables.
C'est ça.
Un petit brin de folie, c'est toujours sympa, bien sûr, mais des personnes qui ont de réels problèmes, ce que j'arrive à voir assez rapidement. Enfin, je m'en éloigne tout de suite et je cherche même pas à comprendre. Oui. Ouais. Je peux pas gérer.
Tu dirais aujourd'hui que tu as réussi ta vie, et pour toi, c'est quoi la réussite ?
Alors oui, j'ai réussi ma vie. Ce serait compliqué de dire l'inverse. Et surtout quand la réussite, c'est le fait d'être libre, d'être heureux. Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir faire ce que je veux, de pas avoir de... La réussite, en fait, je pourrais le résumer d'une chose assez simple, c'est que je peux faire mes courses sans regarder les étiquettes de prix, quoi.
Après, t'es monté très haut quand même. Parce que je pense. Après, t'en parles dans le bouquin, et puis de toute façon, c'est public. C'est public, plus ou moins, mais je pense que t'es la personne la plus riche que je connaisse, en vrai. J'étais en train de réfléchir, je me dis, est-ce que vraiment c'est la personne la plus riche que je connaisse? Mais je crois que oui. Hein,
Alors, la richesse, c'est relative. C'est une richesse professionnelle. C'est-à-dire, effectivement, vu qu'on en parle, ma richesse, elle est évaluée par Challenge à 370 millions d'euros. Mais j'ai pas 370 millions d'euros sur mon compte. C'est comme Bernard Arnault. Il n'a pas des milliards sur son compte. C'est très différent. Mais effectivement, c'est vrai que oui, d'un point de vue financier, j'ai très très réussi. Et souvent, en fait, parfois on me demande ça fait quoi d'être riche, je peux faire les courses et j'achète ce que je veux. Et je m'aperçois que c'est souvent ça qui marque les gens. Parce que c'est vrai que la plupart des gens, tous les jours, presque font des courses et à chaque fois ils sont là, machin, euro. Et c'est dur et c'est normal et je comprends parce que la vie est compliquée et c'est cher. Et le fait de pouvoir acheter ce que tu veux sans te poser de questions, c'est une liberté fondamentale incroyable. Et c'est vraiment ça. l'épitome de la richesse. C'est pas voyager en jet privé. Enfin, m'en fous. Moi, je le fais pas. Ça m'intéresse pas. J'ai pas de montre. Tu vois, j'ai pas de truc où je vais cramer du pognon pour cramer du pognon. Par contre, aller à Hyper U, faire mes courses, acheter ce que je veux, Hermès, mais rien à foutre. Alors ça, c'est bien, quoi. Tu vois, ça, franchement, ça, c'est le kiff.
Pourtant, c'est marrant parce que quand tu croises, et d'ailleurs, t'en parles, tu croises beaucoup d'entrepreneurs, même s'il y a beaucoup de gens qui te disent que l'argent, c'est pas si important, ils sont quand même tous en train de se dire, mais si j'avais X millions, qu'est-ce que ça a pu changer dans ta vie, en positif et en négatif? Parce que moi, je pense qu'il y a énormément de choses négatives au fait d'accumuler de l'argent comme ça. Qu'est-ce que ça a pu changer dans ta vie d'accumuler autant d'argent?
Bah en fait, ça m'a permis de faire ce que je voulais, tout simplement. Ça ne m'a jamais changé. C'est-à-dire que je pense que je suis le même qu'il y a 30 ans. L'argent ne m'a pas fait...
Moi, je t'ai connu moins riche et t'étais le même.
Ouais. Puis même, à un moment, j'étais pas... Enfin, j'ai jamais été pauvre. On avait à manger, donc je ne vais pas jouer le Anthony Bourbon SDF. Hein. Mais je ne pense pas avoir changé, je ne pense pas avoir vrillé. Et depuis tout petit, j'ai toujours eu la conviction que je n'aurai jamais de problème d'argent. Donc, je sais pas pourquoi, hein, je l'explique pas. Mmh. Et donc, le fait que, je sais pas, à 26, 27 ans, j'étais déjà millionnaire, bon, enfin, pour moi, c'était normal. Et en fait, ça a pas changé. Et aujourd'hui, oui, j'ai des sommes incroyables. Alors, c'est pas de l'argent liquide, mais bon, oui. Il y a quand même un patrimoine. Bah, je m'en fous. Je sais pas. C'est très virtuel pour moi et c'est pas quelque chose. À part faire mes courses, comme je le disais. Mais par contre, cet argent, ce qui était important pour moi, c'est de le gagner. C'est-à-dire que une autre de mes peurs, quand j'étais plus jeune, c'était de gagner au loto. Je me disais, si je gagne au loto, ça va me faire vriller. Parce que j'aurais gagné de l'argent, je n'ai pas mérité. Donc évidemment, je ne jouais pas au loto. Donc ça veut dire, ce qui compte, ce n'est pas tellement le résultat d'avoir de l'argent. Ce n'est pas la destination, hein, c'est le chemin. Et ce qui m'a toujours fait triper, c'est de construire des trucs dans le but, évidemment, de les développer et puis que ça ramène de l'argent, puisque c'est un score, c'est un indicateur. Mais l'argent, c'est la conséquence heureuse, en fait, de l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas ce que tu recherches en premier. S'il n'y a que le pognon qui t'intéresse, tu ne vas pas être entrepreneur. Tu vas être trader, banquier. Enfin, je sais pas, il y a plein d'autres choses sur lesquelles tu peux te concentrer que sur le business et n'avoir aucun... sans créer, sans construire, sans avoir du sens, sans valeur. Mais pour moi, non, l'argent, ça... J'ai une relation très, je pense, saine avec l'argent, parce que ça m'a jamais fait tourner la tête dans un sens ou dans l'autre. Quoi.
Et t'as pas souffert, il y a des psychologues qui disent ça, des côtés négatifs de l'argent, c'est-à-dire le fait d'avoir moins de désir, le fait que ça complexifie les relations avec les amis, du coup t'as peur de le perdre.
Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Alors bon, les complexes, c'était très simple, j'ai peu d'amis, j'ai pas de famille, enfin, donc mon noyau familial, c'est vraiment, il était à mes trois enfants, puis quelques amis, mais donc j'ai jamais eu à gérer en fait la relation, et tous les gens avec qui je suis resté proche, en fait, ce sont que des gens avec qui j'ai entrepris, des associés, et donc qui ont suivi un peu le même chemin que moi.
D'accord.
Et après, l'argent, c'est vrai que quand t'as trop d'argent, bah, t'as plus de désir. Enfin, ouais. Et ça se travaille. C'est-à-dire que lorsque Ledger est devenu une licorne en 2021, je dis, bah voilà, je vais me faire un truc, je vais me faire plaisir. Et donc, on est parti à faire des vacances exceptionnelles en famille. Hein, c'est des vacances, ça a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros pour 15 jours. Tu vois, vraiment les trucs.
Oui, un beau truc.
Non, un beau truc. Et donc, c'était absolument incroyable aux Maldives. Et bon, c'était il y a 3 ans. Ben, je me suis dit, non, je vais pas y retourner. Parce que si tu retournes, t'as plus de plaisir. Ça devient la base, ça devient naturel. Et je me force, en fait, quand parfois, j'en ai des hôtels, des trucs, ben, je prends des trucs normaux, tu vois, de base. Je suis pas tout le temps dans des palaces. Enfin, parce que je veux garder ça. En fait, je m'autorise des fois, évidemment, à m'acheter des trucs incroyables, à faire des expériences incroyables, à faire des expériences, mais parce que je le mérite. Je me dis, ah là, t'as fait ça, t'as fait bien, allez, tu le mérites. Et donc, bah, les Maldives, j'y retournerai sûrement, j'espère, mais ce sera parce qu'on l'aura mérité, mais c'est pas la base, c'est pas possible, parce que sinon, après, on s'habitue, il n'y a plus, et on s'en fout. Quoi.
Ouais. Et toi, ton plaisir, c'est de conduire un tracteur un peu.
Ouais, j'aime bien, ouais, c'est sûr. Bah, ça. Ah là, sérieux, si là, à nouveau, il y a des bonnes nouvelles, non, je vais m'acheter un nouveau Manitou, quoi, un beau télescopique, ça, je sens que ça va bien me faire triper, ça.
Et couper du bois. Est-ce que tu dirais que Alors, avant cette question, qu'est-ce que ça fait de tout perdre? Parce que tu as aussi eu cette situation, à un moment donné, où tu as pas mal perdu au
final.
Ouais,
j'ai pas mal perdu, notamment, donc bon, les détails, hein, vous verrez ça dans le livre, mais j'avais tout mon argent sur un compte en banque, et là, la banque a coulé. Et donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé, enfin, j'ai perdu vraiment toutes mes économies. Alors, j'ai pas tout perdu, parce qu'il faut relativiser, il me restait encore une entreprise, j'avais une situation, enfin, j'ai mes parents, donc je me suis pas retrouvé vraiment au fond de la piscine, à la rue, hein, n'exagérons rien, mais quand même perdu des centaines de milliers d'euros qui étaient vraiment ce que j'avais.
Sur un compte en banque, quoi.
Donc, mais en fait, ça m'a troublé 5 minutes. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, de toute façon... Je suis jeune, si j'ai pu me faire 300 000 balles avant, 400 000, je vais me les refaire. Et donc, je suis toujours, en fait, dès qu'il y a une peur, dès qu'il y a un truc, je suis toujours dans l'action. Je me dis, bon, c'est perdu, alors, allez hop, on repart. Et c'est facile quand on est jeune, bien sûr, parce qu'on a l'énergie. Mais en tout cas, moi, ça n'a jamais été une difficulté. L'échec, on l'a, mais c'est très transitoire, quoi.
Donc, tu arrives à rebondir facilement.
Ah oui, sans problème. Mais ça, c'est parce que j'ai une nature de caractère, je pense, extrêmement positive. Toujours tourné vers l'avant, vers le... Et j'oublie extrêmement vite. C'est-à-dire que ça, j'oublie tout. Mais j'oublie même, il y a des gens, ils me font des saloperies, et j'oublie. Après, ils reviennent, ils me refont une saloperie, tu vois.
Ah, wow.
Mais bon, c'est pas grave, parce que je préfère oublier. Et quand tu oublies, en fait, franchement, la vie est tellement belle, parce que tu traînes pas toutes les horreurs, les charges mentales, la revanche, les machins. Et donc, c'est quand même beaucoup plus chouette.
Plus facile.
Ouais.
Tu parles, pour revenir sur le réussir sa vie, t'as un chapitre sur la slow life. Est-ce que tu dirais que finalement, réussir sa vie, c'est cette slow life en pouvant aller au supermarché s'acheter ce que je veux?
Ah, pour moi, oui. Je pense que chacun a une définition différente de la réussite et de ce que ça signifie. Mais pour moi, c'est vraiment... Là, je suis au pinacle du summum de ma réussite. Hein. J'ai un très, très beau domaine en Sologne. Je suis dans ma forêt. Je fais ce que je veux. Je continue de faire mes business, mais tranquillou. Je fais de la télé. Je trouve ça très génial. Je fais ce que j'aime en aidant des entrepreneurs. Et j'ai le temps, je maîtrise mon agenda, je peux voir ma femme, mes enfants, enfin, et je peux faire mes courses, même à Lidl. Une fois, j'étais à Lidl, à Vierzon. Il y a un mec qui vient voir, mais monsieur l'archevêque, mais qu'est-ce que vous faites à Lidl? Voilà, tu vois. Et en fait, c'est génial. Je prends le métro. Quand je dis aux gens que je prends le métro, ils sont toujours étonnés. Non, j'ai pas un chauffeur. Je sais pas, c'est cool, quoi, tu vois, de vivre normalement. Et je pense que voilà, j'ai pas besoin de grand chose. J'ai quand même un grand domaine, donc on peut exagérer.
En l'occurrence.
En l'occurrence, je vais fermer ma gueule. Mais voilà. En tout cas, je pense que j'ai réussi à trouver, obtenir les éléments principaux qui font que, ouais, je suis heureux et tout va bien.
Tu peux nous parler du rôle de ton accident de ski
Oui.
Parce qu'en fait, en particulier, ce qui m'intéresse derrière, c'est l'ennui, en fait. Parce que tu as été bloqué pendant un an.
Oui, j'ai eu un accident de ski quand j'avais 8 ans et je suis resté un an au lit. Je suis pas allé à l'école et donc j'ai fils unique, mes parents travaillaient, donc j'étais quand même seul tout le temps. Et il a fallu que je m'occupe l'esprit. Puis on n'avait pas de tablette, il n'y avait pas de télé, il y avait rien. Hein. Ouais. Enfin, il y avait des bouquins, des BD, enfin des trucs assez classiques, un crayon, papier. Et donc il a fallu que je m'occupe et je pouvais pas bouger. Donc je pouvais pas faire de Lego. Il y a plein de trucs que je pouvais pas faire parce que j'étais quand même assez handicapé avec un énorme plâtre. Et c'est un moment où l'ennui, en fait, a été d'une grande aide et où j'ai pu vraiment réfléchir, me connaître moi-même, faire beaucoup d'introspection. Bon, à 8 ans, je suis peut-être pas allé très loin, mais je pense que ça a quand même aidé à forger mon caractère. Et aujourd'hui, l'ennui, pour moi, est une valeur essentielle qu'on a complètement oubliée, mais qu'il faut réinviter dans notre vie, surtout pour les jeunes. Donc là, j'ai vraiment un message pour les parents qui ont des enfants un peu jeunes et peut-être moins jeunes. C'est faites en sorte qu'ils s'ennuient, quoi.
Moi, ça marche pour les adultes aussi. Hein.
Ça marche pour les adultes, mais c'est peut-être trop tard. Pour les enfants, il n'est pas trop tard. Si vous arrivez à faire en sorte que vos enfants s'ennuient, c'est génial parce que tout de suite, ils vont aller prendre 2-3 bricoles, un bout de bois, ils vont s'inventer des histoires, ils vont partir. Et puis 5 minutes après, ça y est. Et ça, il faut vraiment... Alors, je ne vais pas faire le vieux con, hein, mais c'est vrai que les écrans, c'est quand même compliqué. Et c'est gagner la guerre contre les écrans, ce n'est pas facile. Quoi.
Est-ce que c'est un des éléments importants que tu as voulu... Même si c'est, du coup, j'ai compris, hein, c'est Iveta qui s'est occupée plus que toi de leur éducation, mais est-ce que c'est un des éléments importants que tu as voulu leur donner, l'ennui?
Alors oui, moi je suis très content quand mes enfants viennent me voir et me disent papa, je m'ennuie. Mais je dis, ah, génial, il disparaît. Je vais sur l'autoroute, tu vois. Mais continue. Et Mais l'éducation, oui, c'est important, et surtout dans là, d'éducation de valeurs humanistes. Hein, et mes enfants, ils voient bien qu'il se passe des choses qui sont pas pareilles ailleurs. Donc chaque jour, j'essaie de leur expliquer que c'est pas parce qu'on a tout ça qu'ils sont mieux, en fait, ils doivent comprendre la vie réelle. J'essaie de pas les transformer en petits cons et aussi de pas les écraser. Et donc, je leur ai dit que aux trois enfants, je leur ai dit, je vous déshérite. Tout ce que vous voyez là, vous l'aurez pas. Vous devrez vous faire vous-même. Donc bon, ils n'ont pas encore pris d'avocat, ils n'ont pas encore compris que j'ai pas le droit. En France, on n'a pas le droit de déshériter, je peux pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment essayé
mais
de
créer une fondation.
Oui, mais je peux pas leur donner plus d'un tiers. Ah. Ou un quart, parce qu'ils sont trois en fait, c'est une part. Non, ils sont très protégés, mais ça, ils le savent pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment voulu les mettre dans un état d'esprit en leur disant. Bon, je vous laisserai jamais tomber, tu vois, pas déconner. Mais par contre, non, vous n'allez pas vous retrouver avec des millions d'euros sur votre compte à 18 ans. Non, hors de question. Et de toute façon, je me battrai jusqu'au dernier souffle pour que ça n'arrive pas. Et que, bien sûr, que je vais leur payer leurs études, bien sûr, qu'ils auront un appart, enfin, ils auront un toit, et que s'ils font du business, j'essaierai de les aider. Mais par contre, hors de question qu'ils se retrouvent avec 10 millions d'euros à 20 ans. J'ai pas envie de les transformer en déchets de l'humanité, quoi.
C'est ça. Comment tu fais? Enfin, c'est une question que je me pose et je pense qu'il y a plein de gens qui sont entrepreneurs ou qui ont vendu, tu vois, qui sont en exit. Et, enfin, c'est une question vraiment qui correspond à très peu de gens, mais néanmoins, on va en parler quand même. Comment tu fais justement pour que ça devienne pas des petits cons? Tu vois, parce qu'en fait, comment tu fais pour qu'ils gardent, moi, je vois, par exemple, et toi, je pense que c'était un peu la même chose, t'en parles pas, cela dit, mais, moi, j'ai commencé à bosser, j'avais 15 ans, tu vois, j'allais bosser à Roissy de 7h du matin à 7h du soir, 12 heures par jour, pendant les étés, mais pas toute l'année, mais, tu vois, j'ai dû payer, enfin, j'ai fait un prêt pour mes études, enfin, tu vois, j'ai une vraie compréhension de la valeur de l'argent.
Oui,
et
la valeur du travail.
Et la valeur du travail. Comment tu fais pour t'assurer que E3, ils aient ça? Parce que c'est vrai que c'est pas évident, en fait, quand tu vis dans un monde.
C'est pas évident quand tu vis un peu, on va dire, un conte de fées où effectivement, tout va bien, il y a de l'argent, il y a des belles vacances, il y a des habits, des trucs. Déjà, on essaye de. C'est une question d'éducation et de passer quand même du temps à leur expliquer les choses, à montrer, à pas céder à leurs caprices, et après, ils font plus de caprices. Et je pense, j'ose espérer que mes enfants ont une relation saine par rapport à l'environnement, qu'ils ont compris que ça ne les rendait pas mieux que les autres, qu'ils bénéficiaient évidemment d'une chance incroyable, mais qu'ils devaient pour autant être de belles personnes et que l'important c'était qu'ils arrivent à se construire par eux-mêmes et que oui, ils comprennent la valeur du travail. Donc à l'école, ils travaillent de toute façon. Et c'est pas parce qu'ils bénéficient d'un bel environnement qu'ils ont de meilleures notes. Et donc, oui, ils sont extrêmement privilégiés. Et je le regrette pas. Enfin, je vais pas m'en excuser.
Non, non.
Mais par contre, oui, je suis très extrêmement vigilant là-dessus parce que j'ai compris qu'ils pourraient vriller rapidement. Et surtout quand ils vont arriver à l'âge de l'adolescence, où ils vont commencer à vraiment à se poser des questions, à peut-être demander des choses. Et là, je regarde ça de très près. Vraiment, ça, ce serait le pire qui puisse m'arriver, je pense, d'avoir des petits cons. Non, mais ce serait terrible. Ça, je m'en voudrais énormément si c'était le cas, parce que là, ce serait moi le premier responsable. Hein, donc, il n'y a pas chercher ailleurs.
Et du coup, vous avez déjà une fille de 15 ans, c'est ça? Je ne me trompe pas trop. Donc, elle est adolescente. Elle est dans cette situation.
Elle est ado.
En fait.
Donc, elle est dans une école privée en Suisse où il n'y a que des gens blindés. Moi, je suis un peu le petit pousset. Et là-bas, c'est un peu. Enfin, c'est une très, 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 très bonne école. Et donc, oui, je dois d'autant plus tout le temps relativiser, faire attention, lui expliquer.
On a des discussions.
C'est un vrai sujet. Mais bon, ça va, elle voit bien les autres enfants qui parfois vrillent complètement, enfin qui sont dans un autre univers, avec des parents qui ont lâché l'affaire et qui pour le coup, je pense, donnent une très très mauvaise éducation à leurs enfants. Et donc je vois bien ce que ça peut donner, et donc avec tous ces contre-exemples en face de moi, j'essaye de construire quelque chose de sain. Mais en tout cas, il faut y passer du temps, et là, pour le coup, je le consacre.
D'où le slow life aussi.
D'où la slow life, oui, bien sûr, parce que si j'avais toujours été dans l'opérationnel de Ledger ou d'autres boîtes, faire des trucs, à un moment, c'est juste plus possible. T'as plus d'énergie, en fait, pour toi. Et les tiens.
Parce qu'en fait, au final, tu vois, quand je te demandais si t'avais réussi ta vie, il y a une vraie définition de qu'est-ce que c'est la réussite. Et en fait, quand tu réfléchis au bonheur, il y a évidemment prendre soin de soi, donc la santé. Et puis après, le deuxième truc, deuxième item qui est le plus important, c'est de prendre soin des siens, tu vois. Et les enfants, souvent les gens parlent de l'héritage en disant ils ont besoin d'accumuler pour l'héritage. Mais bon, a priori, quand ils vont hériter, les enfants, ils auront 60 ans. Enfin, donc en fait, la problématique, elle est moins sur l'héritage que sur ce que tu leur donnes, le temps que tu leur donnes au quotidien. Et
ouais,
le temps
ouais, que tu passes avec eux. Je pense pas vivre jusqu'à 140 ans, mais...
Non, mais au moins 80, non?
Ouais, bah ils auront peut-être, dans ce cas, ils auront 30 ans. Enfin, 35, ouais.
Ah, ok. Ta fille de 15 ans, attends.
Attends, je sais, bref.
Non, on va voir le calcul, mais bon.
C'est moi, je suis pas très bon en maths. Mais j'ai compris le principe de ce que tu veux dire. C'est vrai que oui, il y a des chances pour que quand ils héritent, ils soient déjà faits en tant qu'adultes. Donc, c'est maintenant que ça se passe, tout à fait.
Et tu les as. Alors. Quand tu m'as expliqué ce que vous avez fait, je t'ai dit vous êtes déscolarisé. Tu les as pas exactement déscolarisés, mais
non.
J'aimerais bien comprendre ce choix d'éducation différente.
Alors, on habite en Sologne, au milieu de la forêt. Il se trouve que les lycées, les collèges qui sont pas trop mal sont loin, donc c'est internat. Et sinon, ce qu'on a pas très loin, bon, on n'était pas très satisfait. On avait mis au début en internat un peu loin, mais c'est quand même un sacrifice, l'internat, et le résultat n'était pas à la hauteur, pareil, de nos espérances. Franchement, c'était nul, 40 par classe, bref. Donc je me suis dit, voilà, je peux me le permettre, je vais faire une école. Je vais faire une école pour mes enfants. Donc je n'ai pas ouvert une vraie école.
Et ils sont que entre eux, il n'y a pas d'autres enfants?
Non, je n'ai pas le droit. Donc c'est l'éducation en famille, l'instruction en famille. Et j'ai recruté des professeurs. Donc il y a 6-7 professeurs, professeur principal, professeur de maths, de sciences, de sport, d'anglais, de russe, de sciences naturelles, enfin tout quoi. Et donc il y a des locaux, il y a des emplois du temps, et donc j'ai fait mon école, et donc ils ont une éducation qui est celle de l'éducation nationale, mais plus, hein, parce qu'on rajoute quand même pas mal de choses.
Qu'est-ce que t'as rajouté justement? Je suis intéressé, je suis curieux en fait de savoir qu'est-ce que t'as décidé de rajouter.
La nature, comprendre la forêt, l'environnement, regarder un peu de la science un peu amusante et pratique, hein, donc aller un petit peu plus loin dans l'exploration de tout ça, de la robotique, de l'informatique, des choses assez classiques qu'on n'a pas trop mis parce que après ça fait un petit peu trop d'heures, mais on voulait justement en profiter pour amener déjà un certain nombre de savoirs supplémentaires.
Comment tu t'assures de leur socialisation? Parce que l'école, alors je sais que toi, t'en as souffert un petit peu, t'en parles dans le livre.
Oui,
d'ailleurs.
Non, mais tu as raison, et c'est un problème. Et c'est pour ça que, de toute façon, on doit arrêter. Alors déjà, il y a une première chose, c'est qu'en France, on n'a plus le droit de faire ça. Il y a une loi qui est passée contre les dérives sectaires. Donc, pourtant, moi, c'est pas une secte, hein, mais contre les dérives sectaires, qui fait qu'on peut plus faire l'instruction en famille, ou alors il faut vraiment qu'il y ait un handicap, etc. Il faut vraiment justifier. Moi, je me dis, je vais pas rentrer là-dedans. Et de toute manière, si c'est très 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 bien au niveau scolaire, on va dire, les apprentissages, c'est génial. Au niveau social, c'est nul. Et ça, bien sûr que je m'en rends compte. Et donc, l'année prochaine, tout le monde va partir en internat en Suisse.
Ils vont tous les trois.
Voilà, ouais. voilà, exactement. Et donc, là, ils seront, enfin, socialement, ça, voilà, ils vont retrouver un truc un peu plus normal. Parce que oui, à la cour de récré, t'as envie d'avoir tes copains. C'est ça qui permet aussi de te construire. Et là, on a fait l'instruction en famille pendant 3 ans, mais c'était le max. On voulait de toute façon pas faire plus, parce qu'à un moment ou à l'autre, on voulait trouver quand même une vraie solution avec une vraie école.
Et comment tu t'assures de leur compréhension de la mixité sociale? Parce que de ce que je comprends, enfin, je connais pas cette école en Suisse, parce que...
Oui, mais non, il n'y a pas de mixité sociale.
Il n'y a pas de mixité sociale,
c'est ce que je veux comprendre. Il y a vraiment... Alors, pour le coup, social, il y a une mixité, mais pas sociale, voilà.
D'accord,
parce
qu'il
y a des enfants de tous les pays, ça parle toutes les langues,
ouais.
Vraiment de... Par contre, socialement, oui, là, on est plus entre fils de dictateurs, donc il n'y a pas trop de mixité.
Sociale.
Je plaisante un peu. Hein.
S'ils nous écoutent.
S'il y en a qui nous écoutent, voilà. Mais, la mixité sociale, il n'y a pas, mais non, moi je suis comme un bon gauchiste, hein, même si je suis pas de gauche, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, je mets mes enfants dans des écoles, il n'y a pas de mixité sociale, mais ça je pense que c'est quelque chose que tu recrées avec, on a quand même beaucoup d'amis, on fait plein de choses, on essaye de... Mais bon, ouais, ce sera jamais de la vraie mixité sociale au sens du très bien vivre ensemble et d'être dans les quartiers, tout ça. Enfin, non, là, c'est sûr que Ils devront découvrir la vraie vie par eux-mêmes, quoi.
Tu les accompagnes pas pour le faire? Je sais pas, ça pourrait être des associations, ça pourrait être...
Alors, on travaille avec ça, parce que moi j'ai un fonds de dotation dans l'éducation, on est à Vierzon, on n'est quand même pas dans un lieu qu'on peut qualifier de favorisé. Donc oui, là pour le coup, t'as une vraie problématique de mixité sociale. Et donc avec ces actions, je fais des choses ils participent de temps en temps, les enfants, à des ateliers qu'on organise. Donc il y a une certaine forme qui se crée là-dessus. Mais je voulais pas me dire que j'allais me donner une bonne conscience en racontant des conneries sur le fait qu'on fait de la mixité sociale, alors que non, c'est pas vrai pour mes enfants. Mais par contre, on a des actions vraiment dans ce cas-là, dans le cadre de mon fonds de dotation, parce que l'éducation, c'est important. Et je veux justement en faire bénéficier des jeunes qui n'ont pas du tout d'accès à rien, qui n'ont pas la même chance que les autres. Et là, il y a des actions concrètes dans cet univers que je fais.
Parce que là, sur ton domaine, tu as aussi créé un espace... Enfin, si je comprends bien, je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais tu as créé un espace pour accompagner des personnes qui veulent devenir entrepreneurs.
Oui, c'est un domaine de réception et je fais des masterclass. Des entrepreneurs qui viennent, ils viennent passer 2 jours, ils dorment sur place, ils sont nourris et puis je donne des cours. Enfin, je donne des cours, c'est plutôt on discute de leurs problématiques, on partage l'expérience et je les aide à avancer, etc. Donc, mais là, c'est dans le cadre, je n'ai pas construit une école ou un truc, c'est un domaine de réception, quoi.
Okay.
J'aurais pu faire des mariages, mais je fais pour les entrepreneurs.
Je parlais tout à l'heure du fait que tu as été un peu bullish, entre guillemets, quand tu étais ado. C'est ado ou plus jeune?
Ouais, je sais pas, continue.
Et je me posais la question de savoir le rôle de la vengeance dans l'entrepreneuriat.
Que j'ai été bullied.
J'ai dit bullish.
Oui bullish, je me suis dit, mais c'est vrai que je l'étais quand même un peu, mais oui, quand j'étais en seconde et première, j'avais avec ma bonne gueule de provincial et mes cheveux blonds, ma coupe au bol et les chemises à fleurs que m'avait donné ma mère, c'est sûr que c'était un peu compliqué. Et quand je suis arrivé à Paris, dans les quartiers du nord de Paris, c'était un peu rigolo. J'étais un peu chahuté, on va dire, mais je pense que ça a aussi contribué à forger un peu mon caractère, parce que je réagissais en me disant que j'allais leur montrer que j'étais capable de faire quelque chose. Et je pense que ça a été un carburant pour moi, le fait de se faire secouer un petit peu, c'est très bien. Et c'est super, je pense, de pas être populaire. Je pense que les gens qui sont populaires au lycée, c'est les gens qui vont rater leur vie. Alors au contraire, tu vois, si t'es... à côté de tes pompes et que t'es un peu dans le côté qu'on se fout de ta gueule, machin, je pense que ça c'est bien, parce que ça va te donner les armes pour réussir plus tard. Alors que si tout est facile au lycée, parce que t'es populaire, machin, etc., quand tu vas arriver dans la vraie vie, tu vas te prendre une bonne porte dans la gueule, un bon vlant, tu vois, et là tu vas commencer à manger, quoi. Et tu vas manger ton bon sandwich à la merde, alors que si t'as été un outlier pendant tes études, ou ton lycée en tout cas, je pense que là t'as bien appris, et ça c'est génial.
Donc en fait, t'as pas répondu à ma question, cela dit. Le rôle de la vengeance dans l'entrepreneuriat.
La vengeance dans l'entrepreneuriat.
Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a toujours une petite revanche à prendre?
Je pense qu'il y a une revanche personnelle, sociale, bien sûr. Et ça, c'est ce que j'ai eu complètement. Donc, sociale. Enfin, encore une fois, je ne suis pas issu d'un milieu, machin. Mais en tout cas, j'avais une revanche totale en voulant montrer que j'étais capable de faire de grandes choses. Mais c'était pas une vengeance, c'est une revanche. Pour moi, la vengeance,
oui.
Non.
Oui.
Mais la revanche, oui. Et de toute façon, je pense que les plus grands entrepreneurs, c'est des personnes qui ont des égos énormes. Moi, je pense que j'ai un énorme ego. J'ai pas un gros melon, mais j'ai un grand ego, tu vois. Et donc, t'as envie, tu vois, d'être là, de montrer, de créer, t'as envie de rayonner, tu vois. Et moi, c'est ce que je voulais. Je voulais construire une énorme boîte. Je voulais que tout le monde me regarde, me voit en disant, waouh, voilà ce qu'il a construit. Et ça, c'est un vrai moteur. Et c'est une revanche, tu vois. Et c'est une revanche pour montrer que t'es capable de le faire. Et ça, je pense que la plupart des entrepreneurs, ils sont comme ça. Ils ont un moteur intérieur qui est peut-être variable, mais qui se base beaucoup quand même, je pense, sur cette notion de revanche.
Oui, sur revanche. À un moment donné, ça peut être par rapport à l'éducation des parents.
Sur la vie, sur la pollution, les trucs, les gens, ils veulent créer quelque chose pour aller contre le réchauffement climatique. Donc, c'est une forme de revanche aussi. Donc, ça, c'est des moteurs très forts.
Et cette niaque dont tu parles, je reviens à l'éducation de tes enfants, mais comment tu t'assures qu'ils vont l'avoir, en fait? Parce que la niaque, elle est aussi dans le fait d'avoir, entre guillemets, faim, tu vois.
Bien sûr, mais c'est pour ça que je les ai déshérités. Parce que ma fille de 15 ans, elle me dit, ouais, j'ai bien compris que l'argent, c'est bien. Et donc, elle réfléchit à trouver un métier pour gagner de l'argent. Donc, tu vois, c'est un premier réflexe, quoi. Elle se dit pas, bon, de toute façon...
pas besoin de bosser, quoi.
Voilà, quoi qu'il arrive, j'ai regardé mes séries sur Netflix et papa, c'est bon, il va m'envoyer du pognon. Non. Donc, tu vois, elle a intégré ça. Donc après, bien sûr, je sais pas, tu vois, on va voir, Mais j'espère en tout cas que j'ai tout faire pour que oui, il y ait une sorte de fin qui soit là et qu'ils ont un vrai moteur. Mais après, ça peut être d'autres. Hein. Ça peut être un moteur artistique, ça peut être un moteur d'un projet ouais. différent. Ça ne se traduit pas que par l'envie d'amasser de la caillasse, du pognon. Quoi.
Et est-ce que tu n'as pas peur qu'ils soient écrasés par ton succès? C'est-à-dire qu'ils se disent, putain, mais je ne serai jamais aussi fort que papa?
Je ne sais pas. Parce que...
Ça arrive chez les célébrités, tu vois, les enfants de célébrités qui ont toujours du mal à exister.
À exister, oui, tout
quoi.
À fait. Ouais, ils vont falloir se créer un prénom, c'est ça?
Ouais, exactement, ouais. D'une certaine manière.
Ouais, d'une certaine manière. Ouais, je sais pas. C'est vrai que s'ils veulent aller dans l'entrepreneuriat, dans la tech et tout, ils vont souffrir de ce truc-là parce qu'ils seront toujours comparés à moi, mais s'il fait autre chose, il y a peu de chance. Et après, je sais pas si oui, certes, j'ai un beau succès entrepreneurial, mais je suis pas Elon Musk, hein, donc je pense que ça va, je pense qu'ils s'en remettront. Hein. Mais t'as raison, j'avais jamais pensé à ça, parce que je me suis jamais vu de la manière dont tu m'as présenté. mais oui, c'est encore un risque supplémentaire à gérer. Donc,
c'est une question, je sais pas.
Mais oui, il faut que j'y pense.
Une autre question que j'avais, parce que je quand j'observe des entrepreneurs qui ont fait un earn-out, donc qui ont vendu, il y a une angoisse qui se crée de « bon, ok, j'ai réussi une fois ». Mais comment je fais pour rebondir, en fait? Comment je fais pour m'assurer que la deuxième fois, je ne vais pas me planter? Comment je fais pour me réinventer, en fait? Et toi, tu lui as fait plein de fois.
Ouais.
Et donc, je suis curieux. Est-ce que tu n'as jamais eu cette inquiétude? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a vendu? D'abord, qui s'emmerde, parce qu'il a... Moi, j'ai aussi pas mal de copains entrepreneurs...
C'est surtout ça, je pense.
Qui ouais. s'emmerdent. Du coup, ils se disent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai beaucoup d'argent, je ne sais pas quoi dire. Et ça, les gens n'y pensent pas, mais en vrai, ça existe. Et puis, il y a comment je fais pour rebondir, en fait.
Ouais, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui atteint son rêve. Et donc, quand tu es là, tu vends, bam, tu es content 5 minutes. Et après, tu te dis, merde, c'est quoi la suite? Moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'allais réussir. J'ai évacué, je ne me pose pas ces questions, donc ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Par contre, le fait de trouver un nouveau projet, de trouver un but, oui. Et j'ai passé des moments assez difficiles en 2010, quand je cherchais un nouveau projet, que je ne trouvais pas, j'étais quasi en dépression. Et forcément, quand j'ai vendu Ledger, enfin, je n'ai pas vendu Ledger, mais quand il y a eu un peu de earn-out avec Ledger et devenu une licorne, etc., et que j'étais plus le CEO, oui, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est tombé en même temps que le Covid. Enfin, il y a eu plein d'éléments qui ont fait que, de toute façon, tout a ralenti et je me suis retrouvé par la force des circonstances à rester tranquillou chez moi. Et donc, ça m'a un petit peu, j'ai pu faire ma slow life. Mais bien sûr qu'après, tu cherches une raison de vivre. Et moi, j'ai tourné longtemps. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des fusées pour aller sur Mars? Je me suis dit, non, quand même, non, je pense pas. Et donc, je suis resté un peu tranquille dans mon coin et je pense que c'est que maintenant que j'ai compris que ce qui m'intéresse et ce qui m'anime, enfin, j'ai vraiment intégré, même si je le faisais avant, c'est, encore une fois, d'aider des entrepreneurs de faire ça. J'aime bien créer du contenu, fournir, faire des choses, parce que j'ai envie d'aider et je trouve ça super cool parce que tu crées de la valeur. Et à la fin, ça, c'est très valorisant pour soi-même que de pouvoir aider les autres.
Mais d'ailleurs, j'étais surpris par rapport à la création de contenu, parce que d'abord, tu fais tout toi-même.
Oui, je fais tout moi-même.
Tu réponds sur Instagram et tout. Mais quand je t'ai connu, je crois de mémoire, tu étais vachement plus timide. Tu n'étais pas trop là-dedans, en fait.
Ah, pas du tout.
Il y a 10 ans.
Non, mais absolument pas. Et moi, j'aurais jamais pensé faire de la télé. Enfin, j'avais pas du tout ce rêve. Et c'est un moment, je raconte dans le livre comment ça s'est passé. Mais ouais. C'est un concours de circonstances. Mais en tout cas, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, c'est pour moi. Quoi. Donc, j'ai pas hésité. Et effectivement, après, en fait, sincèrement, je me suis assis devant les caméras et je me suis dit, putain, c'est pour moi, quoi. et c'était génial. Et donc, je pense que, tu me mets sur une scène et je pense que je pourrais, enfin, je peux faire des conférences, enfin, je le fais, hein, des conférences, des trucs, j'aime bien. Tu vois, et je sais pas ce qui s'est passé parce qu'avant, j'étais quelqu'un de plutôt timide.
Bah oui, c'est ce que je me souviens.
Et j'avais pas cette velléité. Et là, c'est peut-être le côté artiste de ma mère qui revient sur le tard. Et... Parce qu'en fait, je prends du plaisir. Et quand tu prends du plaisir à quelque chose, ça devient très naturel. Et c'est vrai que c'est génial, en fait, de prendre la lumière, d'être sur une scène, de dire des trucs, et puis que ça marche, et que le public est content. Enfin, c'est une énorme source de motivation. Et je pense qu'une fois que tu commences à toucher à ça, c'est difficile de s'en sortir. Ouais.
Ils sont fiers de toi, tes parents? Tu sais?
Ils sont morts depuis assez longtemps.
Ah, ils sont morts il y a longtemps,
ouais,
je ne sais pas. Pardon.
Mais sinon, ils ont eu le temps d'être fiers de moi. Donc, ça fait 15 ans, je pense, maintenant. Les deux sont morts. J'ai perdu mes deux parents quasiment en même temps.
C'est vrai, t'en parles en plus dans le livre.
Ouais, mais non, je pense qu'en fait, ils ont eu le temps de voir un début de réussite, ils ont eu le temps de voir quand même que ça se passait bien. Et oui, ils étaient fiers de moi. J'ai pas de doute par rapport à ça. Je pense qu'ils se sont dit la mission accomplie. Surtout qu'ils ont eu le temps quand même de me voir me marier et avoir, avoir un premier enfant. Mmh. Et donc je pense qu'ils se sont dit mission accomplie. Et donc,
c'est fait.
Ouais.
Ok. Tu dis dans le livre qu'une idée, ça n'a aucune valeur. Souvent, les gens se battent ou se battent ou alors se disent « Ah, mais j'ai pas trouvé la bonne idée pour me lancer. » Et toi, tu dis « L'idée, ça vaut rien. » Ce qui est assez vrai en général, mais je serais très curieux de t'entendre là-dessus.
Oui, une idée n'a aucune valeur parce que seule son exécution compte. Et pourquoi je le répète et je dis que ça n'a pas de valeur? Parce que je pense qu'il faut en parler de l'idée, justement. Parce que tu as une idée, déjà tu penses qu'elle est géniale, en fait non. Tu penses que personne n'a eu l'idée avant, mais en fait non. Et le fait d'en parler avec des gens, d'échanger, ça l'a fait évoluer dans le bon sens. Et tu transformes une idée de camembert en un truc qui commence à être intéressant. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs ils viennent me voir, ils me disent « j'ai une super idée, ça fait un an que je travaille dessus ». Mais je ne peux pas en parler, ils n'osent même pas m'en parler. Tout le monde, ils pensent vraiment qu'on va leur piquer. Et j'essaie de leur expliquer, mais en fait, fais-toi piquer l'idée, comme ça, c'est fini. Et ensuite, tu vas vraiment pouvoir commencer à bosser, parce que l'idée, on s'en fout, c'est comment tu vas la mettre en œuvre. Et le problème, c'est que les gens restent trop focalisés sur l'idée et pas sur comment je le fais. Et le secret, il est dans l'exécution.
Mmh. Et qu'est-ce que ça... Parce que si on revient en 2013, donc c'est l'année où on s'est connus, c'est à ce moment-là que tu t'intéresses au Bitcoin. C'est une année assez importante pour toi d'ailleurs. Parce que
une année un peu charnière, oui.
C'est une année assez charnière dans ta vie. Mais tu as eu raison trop tôt aussi.
Ouais, enfin, un peu trop tôt, enfin, ça va, je m'en suis bien sorti.
Oui.
Mais t'as raison, c'était le seul risque que j'avais vu. C'était en fait d'être en avance sur le marché. Et, et ça a été très juste. Hein. On n'est pas passé loin de la correctionnelle avec Ledger. C'était très très chaud, quoi.
Comment tu gères ça? D'ailleurs, tu peux nous parler de cette année 2013, en quoi ça a été charnière?
Déjà, en début 2013, j'étais en train de développer un comparateur de prix qui s'appelait Prixing, scannait des codes-barres et savoir où est-ce qu'on achetait le moins cher. Et j'ai pris la décision d'arrêter. Ça marchait pas trop mal, on faisait 2 millions d'euros de revenus. Mais je me suis dit, c'est pas avec ça que je vais faire une licorne. Et donc, j'ai dit, j'arrête. Donc parfois, il faut aussi avoir le courage de prendre des décisions difficiles, d'arrêter. Donc on a arrêté, on a revendu.
Comment tu as pris cette décision d'ailleurs?
Assez rapidement, je me suis dit, en fait, j'ai évalué mon coût d'opportunité. Je me suis dit, là, je pense que pour monter ce bousin, la Prixing à 5 millions, il me faudra 5 ans. Parce que c'est pas scalable, c'est compliqué, il y a plein de problèmes. Et je me dis, en 5 ans, je pense que je peux faire 10 fois mieux, 100 fois mieux.
C'est fou cette confiance.
Et donc j'ai dit, là, j'arrête. Donc j'ai dit, on arrête. Et on a arrêté. Et après, j'ai arrêté. Par contre, je ne savais pas quoi faire. Et c'est à ce moment-là où j'ai croisé la route du Bitcoin que là, je me suis dit, je dois consacrer mes prochaines années au Bitcoin et que j'ai commencé à chercher de projets. Je n'en trouvais pas. Et comme je ne trouvais rien, je me suis dit, je vais ouvrir la maison du Bitcoin. Je vais juste faire un lieu et on verra bien. Et donc là, c'était un terreau d'opportunités. C'était juste une idée en se disant, je vais faire un truc. Les gens vont venir. Il va se passer quelque chose, il y aura des rencontres. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des rencontres et ça a donné lieu à la création de Ledger.
C'est fou d'ailleurs, à l'époque, tu m'as dit d'acheter du Bitcoin. J'avais pas du tout acheté de Bitcoin.
Ouais, j'ai dû le dire à pas mal de monde. Mais il n'est pas trop tard.
Si on revient sur Ledger, qui est un peu l'aventure entrepreneuriale la plus connue que tu as. Donc, tu as Step Out.
Oui.
Tu as, à un moment donné, lâché prise. Et je serais très curieux de comprendre... T'en parles un petit peu dans le livre, bien sûr, mais...
On m'a un peu poussé dans le ravin quand même.
Ouais.
Mais après, effectivement, je me suis laissé tomber dans le ravin.
Mais à un moment donné, enfin, en tout cas, dans l'histoire que tu racontes dans le livre, à un moment donné, tu passes un coup de fil et tu dis « Ok,
je lâche. » C'est ça, j'ai pris ma décision.
C'est quoi le processus pour toi de lâcher? Qu'est-ce que tu t'es dit, en fait?
Ça a été un processus très compliqué et qui a dû se faire très rapidement parce qu'on était pris dans un étau. Et en gros, en 24 heures, je suis passé de « jamais je pourrais lâcher mon poste de CEO chez Ledger » à « je lâche ». Et donc, j'ai fait un travail sur moi-même. C'était un coup d'opportunité, pareil, de me dire « Ok, retire l'émotionnel ». Parce que si tu laisses l'émotionnel, c'est mort. Et donc, j'ai dû retirer l'émotionnel. Et c'était sûrement le plus difficile.
Pour l'ego, quoi. Enfin, tu disais que tu avais un énorme ego, mais alors du coup...
Oui. Non, mais c'était plutôt l'attachement émotionnel, en fait, à l'entreprise. Le reste, je me suis dit, non, de toute façon, si je tombe sur mon épée, je sors la tête haute. Enfin, là-dessus, il y avait une belle histoire. Et on a raconté une belle histoire. Et donc, j'en suis sorti très grandi. Donc, ça, il n'y avait pas de problème. Non, c'était vraiment le fait d'abandonner la boîte avec qui j'avais une relation quasi fusionnelle, hein, en termes émotionnels. Et j'ai simplement fait une sorte d'analyse en disant, bah là, tiens, il y a une porte qui s'ouvre, une porte que j'aurais jamais cru ouverte, qui est que je peux faire l'exit, m'enfuir, partir. Et céder, en fait, vraiment toutes les commandes à quelqu'un. Et je me suis dit, bah ouais, je vais peut-être pouvoir faire autre chose. Je vais retrouver une vie, je vais voir ma femme, je vais voir mes enfants. Il y a une opportunité. J'étais aussi très fatigué à ce moment-là. J'étais vraiment épuisé. Je pense que j'étais en burn-out, probablement. Et donc, j'ai fait un travail sur moi-même. Et je me suis dit, bon, bah en fait, je pars.
C'est quoi le rôle de l'introspection pour toi ? Parce que tu parles beaucoup du travail que tu fais sur toi-même, mais je serais très curieux de comprendre. Parce qu'en fait, les entrepreneurs, parfois, refusent ce travail.
Oui, et alors eh bien, il faut avoir une capacité d'humilité et d'écoute. Humilité qui ne va pas toujours avec l'ego, mais donc il faut trouver le bon équilibre. Mais en tout cas, capable de se remettre complètement en question et d'écouter, de se poser les bonnes questions et de ne pas avoir peur en fait, d'aller regarder là où ça fait mal. Et donc, et pour être capable de faire ça, il faut mettre de côté l'émotionnel et donc être extrêmement pragmatique. Et moi, j'ai cette... mon père, il disait toujours un truc aussi. Il disait, 2 et 2 font 4. Tu vois, c'était un peu sa devise de vie. Et c'est vrai qu'à la fin, bah, tout se résume à ça. 2 et 2 font 4, c'est-à-dire tout est très pragmatique. Enfin, il n'y a que du bon sens. Il y a énormément de choses qui se résument à du bon sens, en fait, dans la vie. Et c'est ce que j'essaye d'appliquer. Donc là, j'ai regardé, je me suis dit, bon, bah, il y a un gars, il est là, il n'est pas trop mal, il veut prendre le truc, moi, je peux faire ça. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça va impacter pour moi ? Je me suis dit, c'est un coup émotionnel, ça va être très dur, c'est une déchirure, une blessure, qui n'est toujours pas refermée, du reste. Mais bon, je l'accepte. Voilà, je me dis, ça va être dur, mais d'un autre côté, ça va m'ouvrir ça, et je ne regrette pas la décision. C'est un coup émotionnel dur, et c'est toujours très dur pour moi, mais je l'ai fait, je ne le regrette pas, parce qu'il y a eu plein de bonnes choses après qui sont arrivées. Mais oui, ça a été sûrement la plus grosse décision et la plus dure de ma vie, de très loin en fait.
Tu le vois comme un échec ? Tu dirais que c'est un échec ?
Non, c'est pas un échec, parce que bah, aujourd'hui Ledger est devenu une licorne. Bon, on verra dans un an si la boîte est toujours là, parce que là c'est compliqué.
Mais le marché évolue bien, non ?
Bah si, ouais, il faut que le Bitcoin monte à 100 000, hein, parce que sinon ça va être compliqué pour Ledger, hein, faut le dire. Mais en tout cas, non, bien sûr que non, c'est pas un échec, parce que, enfin super. L'univers parallèle dans lequel je suis resté aux commandes de Ledger, je pense que peut-être que je serais mort, en fait. Mort vraiment physiquement.
Ouais, on parlait de prendre soin, en fait.
Voilà, parce que je ne prenais pas soin de moi. Et du reste, quand j'ai lâché prise, mon corps a lâché. Je me suis retrouvé à l'hôpital, opéré du cœur. Donc, il y avait vraiment un problème. Quoi. J'avais un truc qui n'allait pas. Et probablement, cette décision, je ne sais pas si elle m'a sauvé la vie, parce que peut-être que j'aurais pu m'en sortir différemment. Mais clairement, il y avait un vrai sujet. C'est peut-être aussi quelque chose que j'ai ressenti et qui a aussi pesé dans ma décision. De ne pas y aller. Et donc, non, bien sûr que non, ce n'est pas un échec. Aujourd'hui, voilà, comme on dit, j'ai réussi ma vie, tout va bien, je suis content. J'ai cette pensée à me dire, et si, tu vois. Mais comme de toute manière, je ne regarde pas vers le passé et c'est je regarde toujours vers l'avenir, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'empêche de dormir. C'est juste un sujet pour moi qui est toujours un peu chargé d'émotions et difficile. Oui, parce que ça a été un moment très dur.
Mais en même temps, l'avantage, c'est que tes enfants te disent « qu'est-ce que tu fais là, papa ?»
Ah oui, bah ça, ils ont été choqués quand je suis arrivé à la maison. Ils ne comprenaient pas ce que je faisais là, pourquoi j'étais encore là et comment ils ne me voyaient pas. Et donc, bien sûr, ils étaient contents parce qu'ils ont pu avoir leur père quand même à un âge où c'est important d'avoir son papa.
Est-ce que, pour revenir sur ce sujet de l'argent, je me posais une question. Est-ce que, parce qu'en fait, souvent, les gens te disent « Oui, non, mais moi, si j'ai de l'argent, je donnerais à des fondations, etc. etc. » Est-ce que toi, pour toi, l'impact sociétal, d'avoir de l'impact d'une société qui se fracture.
Oui, l'impact, pour moi, il est important. Et moi, j'ai choisi mon combat, ce qu'il faut choisir. Ouais. Et j'ai choisi l'impact local. Donc moi, aujourd'hui, j'ai un fonds de dotation. Donc, j'ai mis de l'argent dedans. Et je finance donc, des actions dans l'éducation locale autour de Vierzon, de la région centre. Voilà. Donc, j'ai un terrain de jeu assez quadrillé. Mais au moins, je sais que je peux avoir de l'impact et que ce que je fais touche des jeunes. Et c'est ce qui m'intéresse.
En tout cas, moi, c'est ce que je ressentis dans le livre. Une question autour de Paris versus les territoires. Et c'est exactement ce que tu es en train de décrire là, d'ailleurs.
Oui.
Pour toi, est-ce que la France, elle a un vrai problème, entre guillemets, enfin, on le sait, hein, cela dit, mais d'être vraiment en étoile autour de Paris. Et c'est quoi pour toi le rôle des territoires pour, enfin, le choix que vous avez fait de vivre à Vierzon, tu vois, c'est quand même pas commun.
Non, c'est pas neutre. Et je pense que cette problématique d'étoile avec Paris au centre et tout, elle a quand même bien évolué. Et qu'aujourd'hui, les territoires ont un rôle de plus en plus important. Et maintenant, on n'est plus du tout obligé d'être à Paris pour exister, etc. Même si je dois régulièrement aller à Paris pour tout un tas de raisons.
Mais, un podcast.
Voilà, le podcast, par exemple. Mais ça a évolué par rapport à un certain nombre d'années. Et nous, on a commencé à être à Vierzon avec Ledger dès le début, en 2014. Et ça a été une énorme chance pour nous, ne serait-ce que... simplement pour avoir l'écoute des élus locaux, pour pouvoir parler aussi avec BPI Région Centre, qui a pu aider Ledger de façon très incroyable, alors que si on avait été à Paris, ils ne nous auraient même pas écoutés. Donc on a quand même plus d'espace, il y a plus de choses, il y a de véritables avantages à être en province, dans les territoires, sans compter en plus la qualité de la vie. D'avoir une maison avec un jardin, de pouvoir avoir une forêt ou la montagne, en fonction de l'endroit où on habite. Et ça, la nouvelle génération, elle y est beaucoup plus sensible. C'est-à-dire, elle est plus prête à se sacrifier au travail pour rien. Avoir une vie quand même sympa, c'est important. Et donc, les territoires, en fait, reprennent une revanche. Et je vois de plus en plus d'initiatives locales dans des territoires qui se développent. Et donc, je pense qu'on sort de l'architecture en étoile que tu décrivais. Ça va dans la bonne direction.
Est-ce qu'il y a un truc que tu ferais différemment quand tu regardes en arrière? Pour le coup, je suis désolé, je sais que tu le fais pas trop, mais je te demande de faire l'exercice deux secondes. Est-ce qu'il y a un truc que tu ferais différemment aujourd'hui? Parce que t'as, en fait, dans ton histoire, le fait que tu ailles en Lettonie, ça t'a permis de rencontrer ta femme. Le fait que tu ailles en Roumanie à un moment donné. Enfin, il y a plein de choses que tu as fait qui expliquent ton parcours aussi. Mais oui. Est-ce qu'il y a des choses peut-être, ou une chose sur laquelle tu reviendrais?
Alors déjà, je tiens à le dire. Je veux surtout pas revenir en arrière.
Ça, on a bien compris.
Voilà. Ça, parce que je veux pas revivre tout. Parce que c'est trop dur. Mais par contre, je changerai rien. Absolument rien. Et je serais terrifié à l'idée de changer une virgule. Parce que moi, je crois beaucoup à la théorie du chaos. C'est-à-dire que le moindre changement, en fait, hein, tu sais, c'est les ailes du battement de papillon en Australie qui font un cyclone en Afrique du Sud. Tu vois, chaque chose a son importance, et je pense que si je revenais en arrière, de toute façon, même si je voulais pas modifier, je remodifierais des choses, et ça se terminerait très différemment, parce qu'il y a eu tellement d'histoires, d'aventures, de choses, d'opportunités, de choses qui se sont faites, parfois de manière assez incroyable. Je pense que la vie est pleine d'opportunités, donc ça aurait été d'autres opportunités, et donc une autre histoire complètement différente. Et donc voilà, je toucherai à rien.
Comment on fait pour avoir de la chance?
C'est très simple. La chance, pour moi, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Quand tu vois quelque chose, tu dois la saisir. Il ne faut pas avoir de honte. Tu y vas comme un bourrin, tu prends l'opportunité, tu y vas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine.
Et tu es bien placé pour le dire.
Je suis bien placé pour le dire. Et ensuite, une fois que tu as saisi cette opportunité, tu la transformes. Et ça, c'est la préparation, c'est ton professionnalisme, c'est ton savoir-faire, c'est toute ton expérience. Et donc, il faut toujours arriver préparé.
Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 20 ans? Je pense qu'on a déjà posé cette question, non? Mais je te remène en arrière encore, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises dans la vie aujourd'hui qui font que tu aurais bien aimé le savoir quand tu avais 20 ans, quoi, en gros?
Je me dirais, écoute mon gars, t'es beau, va parler aux filles.
Ah, c'est vrai.
Parce qu'à l'époque, je peux te dire, ou putain, quoi.
C'était
pas possible. J'étais vraiment extrêmement timide. Je me serais redonné confiance en moi en disant, attends, non, c'est bon, t'inquiète pas, tu peux y aller, tu peux parler aux filles, ça ira, ça va bien se passer.
Donc t'aurais pas imaginé finir avec une femme aussi belle qu'Iveta?
Oui, non, mais tout à fait. Et donc, je pense que je suis vraiment bien emmerdé pendant des années pour rien, quoi. Tu vois,
j'aime beaucoup cette idée. Qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur? C'est quoi le je sais pas s'il y a un conseil que tu peux donner.
Alors, un seul, c'est difficile.
Un seul, c'est dur, mais...
Je pense qu'il y en a qui est important pour... je ne vais pas dire la résilience, rien lâcher, tout ça, c'est bon. c'est l'écoute. Parce que c'est une qualité que je regarde chez les entrepreneurs. le fait, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui entend, qui ne veut pas dire que le dernier qui a parlé a raison, mais en tout cas qui prend en compte son environnement, qui est capable de comprendre le marché, de voir les choses, analyser les signaux faibles, et être à l'écoute, et qui donc a cette humilité de pouvoir écouter. Donc il y a de l'ego, mais pas trop, mais en tout cas l'écoute, pour moi, c'est essentiel. Et ce qui est sûr, c'est que si j'ai en face de moi un entrepreneur qui ne veut pas écouter, je ne pourrais pas travailler avec lui.
Est-ce que tu penses que tout le monde devrait devenir entrepreneur? Est-ce que c'est une fin en soi?
Non. Je pense qu'il y a... Tout le monde peut devenir entrepreneur. En fait, il n'y a pas de précurseur. Par contre, tout le monde ne peut pas. C'est pas fait pour tout le monde. Et heureusement, parce que sinon, là, on serait dans un asile psychiatrique. grandeur nature. Et il y a des gens qui peuvent être séduits par l'entrepreneuriat, mais dès qu'ils vont s'y frotter, ils vont se rendre compte que c'est pas fait pour eux, parce que ça demande tellement de sacrifices, tellement d'impact, de travail, de détermination, que c'est un ensemble en fait de compétences qu'il faut avoir, que tout le monde ne peut pas le faire, et tant mieux, et parce qu'il y a plein d'autres choses à faire. Et donc je pense qu'au final, des vrais entrepreneurs, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a peut-être plus que ce qu'on pense, ou ce, parce que maintenant on les voit plus, et il y a des émissions comme Qui veut être mon associé qui les met à l'honneur, et donc c'est super, et ça crée des vocations, et les jeunes ont envie d'entreprendre, tout le monde ne pourra pas être entrepreneur, ça c'est sûr.
Dans les profils que tu vois dans l'émission, c'est que des gens qui ont... Bah, ils ont déjà été castés, j'imagine. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais enfin,
oui, il y a un casting. C'est une émission de télé, il y a un casting.
Ils sont ultra castés avant d'arriver, etc., etc. Donc, ils ont une histoire, ils ont un projet qui tient près
la
route.
Bien sûr, oui, il y a un minimum. En fait, il faut que le projet tienne la route. Il faut qu'il soit compréhensible par le téléspectateur. Il faut que ce soit visible. C'est de la télé. Puis, il faut aussi qu'il y ait un peu une histoire et que la personne soit pas juste... un truc chiant, quoi. Enfin, faut que ça bouge un peu, quoi.
Il y a des histoires qui t'ont marqué, vraiment?
Oui, bien sûr, il y en a plein. Ouais. Pas toutes les citées, mais une qui a marqué, et pas que moi, je pense beaucoup de téléspectateurs, c'est Frédéric Douin qui avait des livres. Il avait 1 million de livres qu'il voulait sauver un petit peu de l'oubli, les scanner. Donc, c'était une aventure humaine assez incroyable, avec un parcours de vie difficile. Et personne ne croyait à son machin. Et moi, j'ai été séduit par le personnage, par l'histoire. Et je me suis dit, bon, après tout, même d'un point de vue business, 1 million de livres, on ne sait pas, il y en a peut-être de la valeur dedans. Et donc, j'ai investi. Et ça fait maintenant plusieurs années que je travaille avec Frédéric. Et c'est génial parce qu'il me montre un métier que je ne connaissais pas. Et j'apprends plein de choses. Donc parfois, il y a des rencontres comme ça qui se font, des investissements qui se font dans des sujets sur lesquels, mais jamais je me serais dit que j'allais investir dans le livre ancien. Mais faut pas, tu vois, c'est pas possible.
C'est loin de la tech. Ouais.
Et donc, c'est ça aussi la magie de cette émission, c'est de montrer qu'on peut entreprendre dans d'autres domaines que la tech ou que ce qu'on a l'habitude de voir.
Et d'ailleurs, tu vois, quand tu parles de cet exemple, ça me fait me dire que, par rapport à ce que tu disais sur l'écoute, qu'il y a aussi une question d'ouverture.
En tout cas, tu peux pas aller dans cette émission en ayant des œillères, en étant fermé, parce que là sinon tu vas t'emmerder, tu vas dire attends, mais je comprends pas, elles sont où mes boîtes de tech, parce que on a quand même, c'est très 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 large, hein. Genre il y a un gars qui est venu avec un sachet de poudre que tu jettes dans la cuvette des chiottes pour faire un coussin amortisseur pour quand tu vas aux toilettes, okay, ça fasse pas de bruit, bien. Tu vois, donc faut quand même s'accrocher, faut être très ouvert d'esprit, hein.
Mais en même temps, c'est bien, ça te fait découvrir des idées.
Ah, mais exactement. Il y a plein de choses incroyables qui arrivent. Et c'est aussi ça, la magie de qui veut être mon associé.
Est-ce qu'il y a des questions ou un sujet sur lequel on ne te questionne jamais, alors que pour toi, en fait, il est crucial? Et une question peut-être que j'aurais oubliée, d'ailleurs.
Un sujet crucial dont on ne parle jamais?
Pas assez, quand on est entrepreneur.
Je ne sais pas, peut-être quand on est entrepreneur... Non, je pense qu'on... Souvent, les questions sont très pertinentes.
Je te remercie.
Je pense que c'est important de ne pas mettre sur un piédestal, en fait, le métier d'entrepreneur et dire que oui, c'est l'alpha et l'oméga et que c'est incroyable. Et que, surtout, il ne faut pas entreprendre pour des mauvaises raisons. Mmh. Tu vois, il ne faut pas entreprendre pour être riche, il ne faut pas entreprendre juste pour des histoires très, très pécuniaires, hein, parce que ce n'est pas la bonne approche. Et donc ça, je pense que tout le monde le comprend bien, qu'il y a une notion de résilience, de difficulté. Et en tout cas, si d'un côté, je trouve que c'est très bien qu'on mette l'entrepreneuriat à la lumière avec l'émission, d'un autre côté, il ne faut pas non plus raconter des salades et dire que c'est la réponse à toutes les questions et que tout le monde doit devenir entrepreneur, que tout le monde doit devenir freelance, que tout le monde doit lancer son business. parce que ça, c'est pas possible.
Pas souhaitable d'ailleurs.
Et c'est pas souhaitable.
Merci beaucoup. C'était top. Le podcast s'appelle Vlan, donc ça, je voudrais savoir, pardon, à qui ou à quoi d'ailleurs tu veux ouvrir ou claquer la porte.
Bah, j'aimerais faire claquer la porte, faire un bon Vlan aux circonstances. Parce que je trouve qu'on a tendance à notre époque à toujours penser ou faire croire qu'on est victime de ses circonstances, alors qu'en fait, on est défini par ses actions. Et donc, voilà, fuck les circonstances.
Ok, très clair. Parfait. Merci beaucoup, Eric. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.